Buongiorno.
Vous aimez le cinéma?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
C'est un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue. Toujours pas de cinéma ouvert, mais les DVD sont encore en vente, la VOD est disponible. Et puis les plateformes de streaming ont ouvert les vannes, comme toujours. Voici Cinérama avec trois films cette semaine et un blind test. Bonjour Guillaume, bonjour Manu.
Bonjour.
Bonjour.
Toi Manu, tu reviens sur un film qu'on a tous les deux apprécié, un film islandais sorti au tout début de l'année 2020.
Oui, Un jour si blanc qui sort donc chez Urban Film.
Quant à toi, Guillaume, tu vas nous parler d'un réalisateur que tu apprécies tout particulièrement.
Oui, c'est Abel Gance à l'occasion de la sortie, dans une édition assez monumentale, de La Roue, sa fresque de 7 heures.
Et ce sera l'occasion d'écouter le réalisateur. On va ressortir des archives de 1955. Il aura l'occasion de nous parler de son film. On jouera aussi un blind test autour de la filmographie de Claude Brasseur, puisque l'acteur est décédé en fin d'année dernière. Donc, ce sera 5 extraits et puis 5 titres de sa filmographie, assez copieuse. 5 titres à retenir. Mais on commence avec une sortie VOD et DVD. C'est celle de La Daronne de Jean-Paul Salomé, avec Isabelle Huppert qui fait une incursion dans la comédie.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Elle est où la tarpane? La tarpane, bordel!
Vous êtes en garde à vue pour trafic de stupéfiants.
Les incursions d'Isabelle Huppert dans le genre de la comédie sont rares. Si l'actrice française est la plus nommée au César, c'est avant tout pour ses apparitions dans les films dramatiques. Alors, ils peuvent être français majoritairement, mais aussi étrangers quand elle joue sous les ordres du réalisateur coréen Hong Sang-soo. Mais on peut quand même citer alors quelques comédies dans lesquelles Isabelle Huppert est apparue. Sac de nœuds de Josiane Balasco dans les années 80, Rien ne va plus de Chabrol en 97, Copacabana de Marc Fitoussi en 2010, Mon pire cauchemar d'Anne Fontaine une année plus tard, et puis juste après L'effroyable Tip Top de Serge Boson. Mais les doigts de la main suffisent à comptabiliser les incursions drôlatiques d'Isabelle Huppert dans le cinéma. C'est pourquoi sa présence dans La Daronne de Jean-Paul Salomé m'est apparue finalement intrigante, pas assez pour que je voie le film lors de sa sortie alors début septembre, mais suffisamment pour faire un rattrapage avec la VOD. Et quelle bonne surprise que cette comédie plutôt légère de Jean-Paul Salomé, qu'on avait laissée avec une comédie policière en compagnie de François Damien et Géraldine Nakache, et qu'on retrouve encore une fois pour une comédie policière. Cette fois-ci, Isabelle Huppert incarne Patience Portefeu, une interprète d'arabe pour la police. Alors, elle suit des affaires de drogue et retranscrit les conversations interceptées par les policiers, soit en direct ou confortablement installées chez elle.
Et on dit comment, gros dos dans le fion en arabe ?
Lors d'une de ses conversations à traduire, elle s'aperçoit qu'elle connaît les protagonistes et va donc tenter de les protéger. Mais ce faisant, elle va s'immiscer dans le trafic de drogue en récupérant un gros stock de drogue planqué par des malfrats. Alors elle va construire le personnage de Madame Benbarka, aussi appelée la Daronne, une femme intraitable qui sait de quoi elle parle et qui donne l'occasion à deux petits dealers perdus du nom de Scotch et Chocapic d'accéder à un meilleur marché. Participant à l'enquête, évidemment, bien aidée par le chef de la police avec qui elle a une relation tendre, Patience peut tirer les ficelles et engranger les billets.
Khadija, il y avait combien dans ce camion ?
Bzzaf, beaucoup, beaucoup.
Il y avait au moins une tonne, il n'est pas parti en fumée.
Cause arrivage bled, vent un demi-mètre de frappe à 250.
Ouais, on bouge là, frère. La galérance, elle est finie, là.
La galérance, elle est finie.
Anna, madame Binbarka, il y a Dartmark. Indicela Lilbia.
Dis-moi tout de suite si vous êtes des crevards.
Il y a une femme qui deal des tonnes de shit dans Paris. On est incapable de la choper.
Sur la tête de ma mère, c'est de la patate de chez patate.
Ça fait toujours plaisir quand le client est content du produit.
Le profil de Patience est celui d'une juive ayant vécu au Maghreb et connaissant parfaitement l'arabe, veuve très tôt. On apprend que son père disparu et son mari étaient des escrocs, alors sans doute un peu magnifiques. On ne sera donc pas étonné que Patience devienne la daronne pour éviter les fins de mois difficiles, d'autant qu'elle ne peut plus payer l'EHPAD à sa mère qui commence à être atteinte de sénilité, ni aider sa fille étudiante. Alors transformée en Madame Barca, Patience change parfaitement de camp. Le film laisse la morale de côté pour s'attacher au personnage. Alors celui qui est central est évidemment celui interprété par Isabelle Huppert qui, regardant le passé avec nostalgie, ouvre les portes d'un futur. La daronne est avant tout une comédie légère et loufoque dans laquelle Isabelle Huppert est confrontée à différents personnages. Elle joue le double jeu avec le chef de la police. Elle Amadou, la présidente du syndic, une chinoise rompue au blanchiment d'argent. Et en tant que Madame Barca, eh bien, elle met à sa botte les dealers Scotch et Chocapic et puis tente aussi d'adoucir la fin de vie de sa mère. Toujours amusée, Isabelle Huppert emmène parfaitement cette comédie qui se laisse regarder avec plaisir. Car si la bande-annonce laisse apparaître quelques outrances, celles-ci sont gommées sur la longueur.
Il y a vraiment quelque chose de paradoxal chez toi. Hein.
Bonjour.
Tu dégages une confiance en toi, ça m'impressionne. Tu me fais penser à des mecs que j'ai de coffrés.
La daronne de Jean-Paul Salomé est disponible en VOD. Soupçons d'adultère et désir de vengeance dans un drame contemplatif et visuellement captivant, c'est Un jour si blanc, film islandais.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Un jour si blanc commence très fort par deux séquences éblouissantes. Alors en ouverture, dans une brume opaque et oppressante, une voiture noire roule à toute allure sur une route de montagne et finit par se cracher dans le vide dans un virage. Alors le travelling latéral qui suit la voiture s'enfonçant dans les ténèbres, d'un point de vue symbolique du moins, immerge le spectateur d'emblée, fasciné par la splendeur des images. La séquence suivante est tout aussi admirable, une succession de plans larges et fixes montrant une maison en faisant défiler les saisons. Alors durant 2-3 minutes au moins, Ilnur Palmason parvient à nous faire ressentir le temps qui passe avec la simplicité évidente des moyens du cinéma, valorisant magnifiquement le paysage islandais par les variations chromatiques totalement hypnotique. Alors le récit peut alors débuter sans expliciter lourdement les enjeux. On fait donc la connaissance d'un commissaire de police, Ingimundur, en congé depuis le décès de sa femme dans un accident de voiture. Il soupçonne un homme du quartier d'avoir eu une relation avec son épouse. Obsédé par cette possible adultère, il se met en quête d'une recherche de la vérité qui progressivement tourne à la limite de la folie, mettant en danger lui et ses proches. Un homme en colère, tel aurait pu être le titre du nouveau long métrage du jeune cinéaste islandais après le remarqué Winter Brothers en 2017. Alors en prenant pour prétexte une histoire policière un peu cousue de fil blanc, Un jour si blanc décevra sûrement les amateurs de polar alambiqué. L'intrigue avance assez lentement, le réalisateur préférant s'attarder sur le quotidien morne du commissaire et ses difficultés relationnelles avec son entourage, sa famille, ses amis et ses collègues de travail. Le fait que sa femme l'ait trompé ou non n'intéresse visiblement pas le réalisateur qui s'attache davantage à dresser le portrait d'un homme figé dans sa haine, presque terrifiant, un concentré de violence dans un corps massif. Alors avec son visage fermé et son regard inquiétant, Ingvar Sigurdsson est tout simplement prodigieux. Il faut le voir raconter à sa petite fille une histoire horrible avant de s'endormir pour constater à quel point la noirceur habite ce veuf qui n'a pas réussi à faire le deuil et a besoin d'un prétexte pour déverser toute sa colère. Ou encore ce moment d'une brutalité inouïe à la force cinétique peu commune où il se bat contre ses collègues avant de les jeter en prison. Alors plasticien de formation, Palmason confère à sa mise en scène une rigueur formelle installant les plans savamment composés dans la durée, portés par une musique contemporaine fascinante de Edmund Finnis, une sorte de quatuor à cordes un peu dissonant. Un jour si blanc, peu rebuté par son esthétique glacée et glaçante, brillante, mais qui peut nous mettre à distance, ne faisant pas la place aux émotions. Cet aspect faussement désincarné n'a pourtant rien d'artificiel. Cette indifférence au monde et aux gens n'est au fond que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de la psyché du personnage principal, devenu une sorte de mort-vivant, s'acheminant vers une longue descente aux enfers. Jusqu'au dernier quart d'heure qui change toute la donne et bouleverse nos idées reçues. Cette atmosphère austère, proche de l'engourdissement, est soudain balayée par un torrent d'émotions au moment où le personnage est agressé et blessé physiquement devant sa petite fille. Alors d'un coup, il va libérer toute sa rage et s'effondrer. Il va enlacer et prendre l'enfant dans ses bras avant de s'enfoncer dans un tunnel, passage libérateur peut-être un peu trop voyant, certes, sur le plan métaphorique, mais d'une force visuelle incroyable. Mais la sensibilité, en fait, à fleur de peau du cinéaste éclate hein, dans cette fin réparatrice et empathique, montrant l'animal blessé revenir à la vie, de redevenir un homme parmi ses semblables. Alors, le film, hein, qui était sorti donc l'an dernier, je le répète, sort chez un tout petit éditeur DVD. Ils doivent avoir quelques 3-4-5 titres dans leur catalogue. C'est donc Urban Film.
Voilà, donc ce film, si vous voulez le voir, vous pouvez voir aussi le précédent, effectivement, Winter Brothers, qui, alors là aussi, plastiquement est admirable. Alors, peut-être en termes de mise en scène, est peut-être moins classique, en tout cas. Mais vraiment, c'est un réalisateur qu'il faut absolument suivre parce qu'il ajoute à sa mise en scène eh bien, vraiment une des composantes du cinéma qui est l'image et la composition des plans. Maintenant jouer dans cette émission avec le blind test concernant Claude Brasseur.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Claude Brasseur, 62 ans de carrière, plus d'une centaine de films, pas toujours bon. Hein. Claude Brasseur s'est éteint le 22 décembre dernier à l'âge de 84 ans. Alors il a le plus tourné, vous allez me dire, avec Franck Dubosc, peut-être? Eh bien non, pas du tout. C'était avec Jean Carmet, Jean-Pierre Mariel, Michel Serrault, Jean-Claude Brialy et Trintignant. Voilà, c'est le top 5 de ses apparitions au cinéma. On a l'habitude de commencer ce blind test où, je le rappelle, il faut découvrir donc 5 titres de la filmographie de l'acteur avec quelque chose de facile et on ne va pas déroger à cette règle.
Dis donc, il y a peut-être plus urgent que ta mobilette, non?
Ça?
Il y a la surboom de samedi.
Quel surboom?
Boom, pas surboom.
C'est chez qui?
Un mec, tu connais pas.
Enfin, comment il s'appelle?
Raoul.
Raoul, Raoul comment?
Mais j'en sais rien, qu'est-ce que ça peut faire?
Enfin, t'as l'adresse, le téléphone?
Non, tout le monde y va, je me débrouillerai.
Écoute, Vic, il faut quand même que je téléphone à la mère de ce garçon.
Mais c'est pas un goûter d'enfant!
Justement, c'est à quelle heure?
8 heures. Jusqu'à quelle heure? Et qu'est-ce que tu vas lui dire à la mère? Vous êtes bien la maman de Raoul? Votre petit garçon a bien invité ma petite fille à sa surboom? J'ai l'air débile.
Eh hey, oh, un autre ton, hein.
Alors c'est trouvé.
Alors c'est la boom. Mais Manu, t'avais trouvé le chiffre, toi.
Ah, on sait pas. C'est le 2, donc?
Normalement, c'est le 2, oui. Film de 1982 de Claude Pinotto. Alors évidemment, avec Sophie Marceau qu'on écoutait. Et c'est quand même elle qu'on voit le plus hein, dans le film. Finalement, Claude Brasseur est connu pour ce rôle, mais c'est pas c'est un rôle marquant, mais voilà. Alors, 2 ans après la boom, Vic, maintenant âgé de 15 ans et demi, entre en classe de seconde au lycée Henri IV et au milieu de ses déboires amoureux et de disputes récurrentes avec ses parents, elle peut toujours se confier quand même à son arrière-grand-mère Poupette. Voilà, 4 millions d'entrées en
Denise
France.
Denise Gray, d'ailleurs.
Oui. Allez, deuxième extrait. Il faut trouver un titre de film dans lequel joue Claude Brasseur.
Je vous demande, qu'est-ce que vous foutez là?
Parle à moi, Fouche, c'est mon client. Je serai très reconnaissant à l'avenir d'aller faire tuer vos amis ailleurs.
Faites très attention, Balestra.
Mais je fais très attention, Fouche. Je n'ai pas l'intention de mourir à cause de vos conneries.
Écoutez-moi, Balestra. N'approchez plus jamais Sarlat, sans ça je vous tape sur la tête jusqu'à ce que vous ayez le goût de votre cervelle dans la bouche.
Je vous encule, Fouche. Si je veux la peau de Sarlat, je me passe un de vos conseils de guignol. Bonsoir.
Alors, ce n'est pas une entente cordiale, ça n'a pas été trouvé dans les studios. Peut-être que vous, vous avez trouvé, chers auditeurs. Alors, est-ce que je peux donner un indice? Vous avez reconnu Claude Rich, évidemment. Il y avait Claude Brasseur. Je peux dire comme indice quand même que c'est le César du meilleur acteur pour Claude Brasseur en 1980. C'est pour ça que je l'ai choisi, d'ailleurs. Et c'est réalisé par Robin Davis. C'est...
La guerre des polices.
La guerre des polices, oui. Sortie en 79, donc là, on sent la guerre, hein, parce que ce sont évidemment deux chefs, les commissaires Balestra, chef de la brigade territoriale, et Fouche, de la brigade anti-gang. Fouche, c'est Claude Brasseur. Alors, ils traquent Sarlat, l'ennemi public numéro un, mais ils ne s'entendent pas du tout, comme on vient de le comprendre, et cherchent à prouver la supériorité de leur service. Et ça, c'est un film qui a fait 1,8 million d'entrées. C'était une bonne période pour Claude Brasseur. Allez, un autre extrait. Il faut trouver le titre, évidemment.
C'est qui, Madame Luberon?
C'est pendant que tu étais en Iran.
Ah, et la femme du professeur, de son patron, hein?
Seulement, je peux y aller que la nuit.
Et encore, si l'autre est appelé pour une urgence, on s'en prend de fourrette.
C'est-à-dire, ça dépend de la gravité de l'intervention. Si c'est une appendicite, je me dérange pas. Si c'est, mettons, une péritonite, elle me téléphone parce que rien que l'aller-retour, j'ai 25 minutes de voiture. Alors tu vois, le temps qu'il se lave les mains soigneusement, qu'il enfile ses gants.
Allô, mon bébé, ça. Il a 2 jambes à couper. Bouge pas, j'arrive.
Trouvé.
Alors c'est un éléphant trompe énormément.
Ça trompe.
Ça trompe énormément.
Oui. Ouais. Bon, on sent le film de potes hein, quand même. Hein. Ils sont 3, ils se marrent. Voilà. Film d'Yves Robert, sorti en 1976. Là, il y avait Guy Bedos, Jean Rochefort et Claude Brasseur dans une voiture. Donc l'histoire de 4 copains restés de grands enfants à l'approche de la quarantaine. Brasseur interprète le rôle d'un homosexuel. Et il s'agit d'un des premiers personnages homosexuels positifs du cinéma français. Voilà, c'est quand même à noter. C'est le César du meilleur acteur dans un second rôle pour Brasseur à ce moment-là. Et ça a fait 2,9 millions d'entrées en France. 4e extrait.
Monsieur, vos sourires dissimulent mal une grande naïveté intellectuelle et morale. Oh là, je sais, il n'y a jamais aucun d'entre vous qui a profité de sa qualité d'officier de police pour rentrer chez une pute après 21h, hein? Jamais aucun d'entre vous n'aurait osé échanger un petit renseignement ou une protection contre un petit coup bien fait, bon voyons. Vous êtes des saints. Moi qui suis pas un saint, moi qui bois pendant le service, et que je t'en fous partout d'ailleurs. Moi quand je pose une question idiote, je ne fais pas d'une réponse à la con. Par contre, quand l'un de vous pose une question à la con, j'exige une réponse carrément intelligente. C'est clair?
Alors, il y a des questions qui se posent hein, en studio, puisque ça n'a pas été trouvé. C'est pas forcément un blind test facile. Alors, c'est un film qui a réuni quand même 1,8 million d'entrées, donc il y a un certain nombre de spectateurs qui l'ont vu. Film... de 83, un polar où là, encore un commissaire, c'est le commissaire Griffon. À noter qu'il n'est pas franchement sympathique. Il a vraiment des méthodes, enfin vraiment de vieux flics comme on n'en voit plus dans le cinéma français. Sauf peut-être chez
Olivier Marchal.
Olivier Marchal.
Ouais, chez Olivier Marchal. Non, je ne vois pas en fait. Hein. 83, alors, je suis sûr film, que je connais. Hein,
film de Philippe Labraud.
Philippe, bah, c'est pas Rive Gauche ?
Non.
Non.
C'est La Crime. C'est
La Crime, oui.
Oui. Un célèbre avocat d'affaires est abattu en plein palais de justice. Le commissaire Griffon est chargé de l'enquête et se fait aider par une journaliste. Il va enquêter dans les hautes sphères de l'État et se battre pour mettre au jour un complot impliquant un ministre et un puissant homme d'affaires. Allez, dernier extrait de ce blind test concernant la filmographie de Claude Brasseur.
Ok, maman, j'attends de voir la mère Châtel. Mais je te préviens, je mets pas le haut vent. Je ne mets pas le haut vent parce que pour moi, demain, on est en face.
Non, mais tu mets pas le haut vent, tu mets pas le haut vent, Jackie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?
Tu vas pas me laisser marcher dessus par des Allemands, non ?
C'est des Hollandais, Jackie.
C'est pareil. Non, mais tu m'entends, maman ? Si la situation se débloque pas ce soir, je remets tout le matos sur la boule et dans 9 heures, on est à Melun. Logicamp ou pas Logicamp ? Oh bah.
Salut, Jackie ! T'es pas au 17 ?
Et non, il est pas au 17. C'est bien le problème. Trouvez, donc.
C'est Camping,
oui.
L'horrible film de l'horrible Fabien Otegnente.
C'est ça, avec Franck Dubos. Bon, après, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas, avec Franck Dubos, Gérard Lanvin. Alors, on se retrouve au Camping des Flots avec les habitués pour qui rien ne va plus vraiment comme il faut. Débarque alors un chirurgien parisien qui découvre ce qu'est le camping. Alors, à noter que ce rôle, bon, qui est quand même un de ses derniers connus, hein, le rôle de Jacques Hippique a été initialement écrit pour Jacques Villeray, à qui le film est d'ailleurs dédié. Et donc, Claude Brasseur a dit qu'il avait joué le rôle en pensant à lui. Voilà. Alors, il y a eu deux suites, et toujours le Jackie, hein, qui était au Camping des Flots. 5,4 millions d'entrées. Ainsi s'achève donc eh bien, ce blind test qui revenait sur bien, la carrière de Claude Brasseur, une longue carrière de 62 années.
This is Cinérama.
Il y a le cinéma d'avant et d'après La Roue, comme il y a la peinture d'avant et d'après Picasso. De qui est cette phrase ? Ça continue, hein, enfin, les questionnaires.
C'est d'André Breton,
non ? Non, c'est de Jean Cocteau, voilà. Et c'est donc autour du film eh bien, d'Abel Gance, La Roue, dont tu vas nous parler maintenant, Guillaume.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Eh bien, oui, je crois que oui.
En cette période de confinement plus ou moins établie, hein, je pense que beaucoup d'entre vous ont développé l'habitude de binge-watcher des séries. Alors derrière ce terme à la mode, hein, qui veut dire se gaver, se cache un besoin de combler une attente que l'on a, à tort ou à raison, de ce qui ferait une bonne fiction. Cette surconsommation répondrait à l'idée que plus un programme est long, plus il a du contenu intéressant. Alors c'est bien beau la longueur, hein, mais encore faut-il savoir quoi mettre dedans. La récente réédition de La Roue d'Abel Gance, hein, vient un petit peu chambouler cette frontière posée entre ces deux médias que sont le cinéma et la série. Ce mois-ci, Gaumont nous permet de faire un saut dans le temps, hein, et de remettre en perspective tout ça. La célèbre maison de production nous ramène presque un siècle en arrière, en 1923 plus précisément, une époque où il n'y avait pas de télévision et où le cinéma, pas encore régulé par l'arrivée du son et de ses contraintes techniques, hein, se permettait allègrement de laisser ses auteurs, hein, s'exprimer dans une durée que le spectateur moderne pourrait aujourd'hui qualifier de déraisonnable. Vu que le cinéma était un spectacle total et universel, hein, puisque je rappelle qu'il n'y avait pas de langage parlé, il était commun pour les œuvres d'envergure de tutoyer allègrement les trois heures pour raconter leur histoire. Alors pour Abel Gance et sa Roue, il en faudra pas moins de 7 heures, pour suivre le récit dramatique de Sisyphe, un cheminot esselé qui va voir sa vie chamboulée dès lors qu'il va recueillir une petite fille qui vient de perdre sa famille dans un effroyable accident de train. Et attention, ce n'est que le début d'une histoire titanesque découpée en 4 époques.
On va écouter le réalisateur Abel Gance dans une archive sortie de 1955. Il était interviewé sur la chaîne parisienne et il revient donc sur la genèse de ce film La Roue.
Cette idée m'est venue lorsque j'ai compris que malgré les grands succès que j'avais eus avec les films dont nous avons déjà parlé, comme Mater Dolorosa, la 10e symphonie, La Zone de la Mort, et J'accuse, que je n'étais pas encore dans la véritable voie cinématographique et que je n'en avais pas trouvé les éléments visuels ni le véritable langage. Je réfléchissais énormément à cette époque à la façon d'amener l'image. Je cherchais comment l'image pourrait m'obéir et comment je pourrais traiter un drame, plutôt une tragédie moderne, mais qui, comme toutes les tragédies, peut se passer à toutes les époques. Comment je pouvais la traiter de façon à ce qu'elle puisse avoir une personnalité absolument différente de ce que tous les autres arts pouvaient nous donner jusqu'à cette époque. Et c'est sur la terrasse de Caux, en Suisse, que me promenant un matin, alors que ma jeune femme, qui était fort malade à l'époque, était dans son lit, que brusquement j'eus l'illumination de faire un film dont le monde du rail ferait la première partie, c'est-à-dire le monde du rail avec tout ce qu'il avait de noir, de dur, de cruel, si je peux dire, à l'époque, et un monde du rail se passant dans la haute montagne en seconde partie, dans la neige, c'est-à-dire en opposition à la symphonie noire de la première partie, une symphonie blanche par contraste. Le drame, je dirais, sur le plan objectif extérieur, était né avant les personnages. J'avais cherché les ambiances et les moyens d'intéresser par le mouvement et par les expressions de la nature, à la fois dans ce qu'elle avait de sauvage et de dur sur le côté rail, et de beau et d'immaculé dans la partie symphonie blanche.
C'était l'extrait d'une interview donnée à la chaîne parisienne en 1955 par Abel Gance.
Et c'est là qu'on commence à voir l'ambition démesurée donc du réalisateur. Parce que là où on pourrait penser que La Roue serait un film à grand spectacle, le jeune réalisateur va optimiser son temps pour se concentrer sur l'intime et va suivre Sisyphe dans tous les tourments qui vont découler de cette adoption. Dont la petite fille, surnommée la Rose du Rail, va grandir avec son frère d'adoption Élie, donc le véritable fils de Sisyphe. Le problème, c'est qu'une fois adulte, Norma, donc la fameuse Rose du Rail, ne va pas laisser indifférente son père, qui va tomber amoureux d'elle. Pire encore, lorsque Élie va découvrir que celle qu'il prenait pour sa sœur naturelle n'est pas du même sang, il va lui aussi tomber amoureux d'elle. À ce trio déjà compliqué, va venir se greffer un homme fortuné qui va vouloir tirer avantage de la situation en voulant récupérer la main de Norma et faire pression sur le pauvre et désargenté Sisyphe. Ouh ! Alors quand on se penche sur La Roue et que l'on fait quelques recherches, il est intéressant de savoir qu'à la base, le film devait être une adaptation du Rail, un roman de Pierre Hampe, un ancien cheminot devenu écrivain et inventeur du nouveau réalisme. Or, pour qui connaît un petit peu le cinéma de Gance, on sait à quel point le réalisme n'est pas forcément ce qu'il entend respecter. Gance, c'est ce cinéaste de la démesure, de la fresque lyrique, de la chanson de gestes faite cinéma. Il avait eu le Lacrimal Mater Dolorosa en 1917 et bien évidemment son monumental J'accuse en 1919. Dans ce dernier, qui traite de l'impact de la Première Guerre mondiale, alors toute fraîche sur plusieurs Français, le dernier acte voyait quand même les morts de toutes les guerres répondre à l'appel d'un poète en se relevant de leur tombe pour défiler et donner ainsi une leçon sur l'horreur des conflits qui animent les hommes. Au passage, c'est ainsi qu'est né le tout premier film de zombies. Le réalisme, donc, c'est pas son truc, Gance, et il va utiliser le roman que comme point de départ pour assouvir sa soif de grandeur. Son traitement va lui permettre de mériter le surnom qu'on lui donnera, le Victor Hugo du cinéma. D'après ses propres mots, le cinéma est la musique de la lumière. C'est beau, hein ? La Roue va donc relever tout autant de la tragédie antique et de la littérature romantique dans sa narration que de l'expérimentation pure et dure au niveau formel. Pour coller au plus près des émotions voulues, Gance, totalement soutenu par Charles Pathé, va étirer son récit, coloriser partiellement le film, alterner les séquences à fleur de peau avec des morceaux de bravoure herculéens, travailler ce montage en surimpression et symboles si vifs et caractéristiques qui fera la joie des Russes peu de temps après, et ira même défier les éléments pour une conclusion rocambolesque et christique en pleine montagne. L'intensité du mélodrame épique dépeint va même être multipliée par la douleur, bien réelle celle-là, de son réalisateur qui verra sa femme adorée, Ida, lentement succomber d'une maladie pendant la production. Ce qui va alimenter, bien sûr, tout l'aspect mélodramatique du film. Le résultat final, c'est un triomphe. La Roue est l'un des plus beaux films du temps du muet, toutes nationalités confondues, et achève d'installer Gance comme étant le réalisateur français le plus ambitieux et talentueux jamais produit. On pourrait même étirer cette affirmation jusqu'à aujourd'hui, mais bon, on va éviter de se faire du mal. Toujours est-il que le chemin est désormais tout tracé pour l'année 1927 qui verra la sortie de son œuvre la plus célèbre et ambitieuse, Napoléon. Aujourd'hui, et après des années de reconstitution minutieuse, le grand public peut enfin redécouvrir La Roue dans sa splendeur d'origine, dans une copie Blu-ray magnifique et dans un coffret qui fait honneur au cinéaste surdoué, où vous apprendrez beaucoup de choses sur sa conception, qui a été très très compliquée. C'est le moment idéal pour se replonger dans une époque où l'art rimait avec ambition et cinéma avec génie. Donc avec ce nouveau lifting, La Roue n'a jamais paru aussi jeune et n'a pas fini de tourner dans nos lecteurs.
La Roue, ce très 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 long métrage, est maintenant disponible en DVD chez
Gaumont.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle émission. On vous parlera de A Piece of Woman, film tout à fait étonnant de
Cornel Mundruczó.
Voilà, on s'est fait aider par Google Traduction hein, pour prononcer le nom du réalisateur hongrois. Et toi, Guillaume ?
Alors moi, je m'intéresserai à un documentaire qui s'appelle The Scrooge Mystery de Morgan Jickel sur le dessinateur Keno Don Rosa.
À la semaine prochaine.